Le confort dans l'habitat avec Promotelec.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Confort dans l'habitat, édition Promotelec, émission Promotelec avec Radio Immo. On est ravis d'accueillir, comme d'habitude, Florence Delette. Bonjour Florence.
Bonjour Fabrice.
Directrice générale de Promotelec. Et Rémi Oudguiri. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, travaillez chez Sociovision Group IFOP et vous réalisez des études. Et justement, on va parler d'une étude que vous avez réalisée pour les 60 ans de Promotelec, dont on a fêté l'anniversaire en grande pompe. C'était sur Radio Immo il y a quelques semaines. On va parler des métamorphoses de l'électricité. C'est vrai que cette électricité dont on n'a jamais autant parlé au cours des mois derniers, eh bien, elle a évidemment évolué notre rapport à cette énergie. Pourquoi avoir commandité cette étude, Florence Delettre?
C'est bien, comme vous le dites, c'est bien dans le cadre des 60 ans. L'association a 60 ans et on a voulu voir comment nos concitoyens percevaient l'évolution de leur logement entre les années 62 et maintenant. Est-ce qu'ils en attendaient aussi? Donc on a sollicité Rémi pour faire cette étude et on a des résultats assez importants sur différentes dimensions, que ce soit l'électricité, que ce soit la maison technologique, que ce soit les appareils qui ont retenu toute l'attention de nos concitoyens. Et donc, du coup, on a trouvé que c'était une étude qui était assez révélatrice sur certains facteurs qui traduisent bien l'évolution du contexte actuel.
Elle est revenue aussi bien sur nos appareils électriques qui ont marqué effectivement ce demi-siècle, et même un peu plus, jusqu'à la maison du futur, à quoi elle va ressembler. Alors Rémi, on va vous passer la parole, mais tout d'abord, expliquez-nous, comme toute bonne étude, la structure, la méthodologie de cette étude.
Alors on a travaillé sur un échantillon représentatif de la population française, âgée de 18 ans et plus. On a interrogé 1000 personnes, sachant qu'évidemment on a regardé plus spécifiquement les propriétaires, plus spécifiquement les générations. Oui. Donc, mais c'est un échantillon des Français en général.
Voilà, 1000 individus âgés de 18 à 75 ans, et ça s'est déroulé sur le terrain et en ligne, c'est ça?
Oui, en ligne à l'été 2022.
Ok, allez, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. On va vous poser cette première question. Quels sont les appareils électriques qui ont le plus marqué la société depuis ces 60 ans écoulés?
Oui, alors, on a demandé aux Français d'être un peu des historiens, ce qui ne sont pas d'habitude, et on leur a dit, mais voilà, au cours des dernières décennies, quels sont les objets, les installations, les équipements qui vous ont le plus marqué? Et c'est intéressant parce que il y en a quatre qui se détachent vraiment. Il y avait une très longue liste d'équipements possibles. Et parmi ces quatre, il y en a deux qui remontent aux années 60, véritablement, la machine à laver.
Oui.
Et le réfrigérateur. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des appareils finalement que tout le monde a cités, que ce soit les plus jeunes ou les moins jeunes. Ce qui veut vraiment dire que le réfrigérateur et la machine à laver, c'est vraiment des piliers de la société.
Ouais,
de consommation.
C'est les marqueurs forts aussi d'une certaine transition. C'était les 30 Glorieuses.
Voilà.
C'était ces nouveaux installations qui des États-Unis qui s'installaient dans toutes les maisons, dans tous les foyers.
Voilà, c'est vraiment les symboles du consumérisme contemporain.
Et puis du confort dans l'habitat, c'est le titre de l'émission, c'était le confort, hein, parce qu'après, avant, aller au lavoir, c'était quand même moins évident.
Exactement, et puis il y a deux autres appareils qui ressortent, l'ordinateur,
oui,
qui a émergé dans les années 80, et qui reste encore aujourd'hui une icône, hein, puisque c'est vrai qu'on est passé dans la société informatique et numérique d'aujourd'hui grâce à l'ordinateur, et puis bien sûr, le smartphone, d'invention plus récente, mais qui fait partie des objets emblématiques, hein, qui a changé la vie de tout le monde, et qui est là aussi cité globalement par tout le monde. Évidemment, chez les plus jeunes, c'est encore plus important. Et d'ailleurs, quand on pose la question, mais qu'est-ce qui vous est le plus indispensable dans votre vie? Autrement dit, si on vous exilait dans une île déserte, qu'est-ce que vous emporteriez en premier? La plupart des gens emmènent quand même le réfrigérateur parce qu'il faut bien s'alimenter, mais les plus jeunes mettent d'abord le smartphone. Donc, on peut mourir de faim, mais il nous faut absolument le smartphone.
Florence, une petite réaction, parce que ça fait penser, vous savez, quand Steve Jobs a commencé à l'époque avec son premier Mac, on pensait, il avait dit, le micro-ordinateur, ça sera dans tous les foyers. Et les gens lui avaient rayonné parce qu'à l'époque, c'était IBM qui fabriquait les ordinateurs et ça prenait toute une pièce. C'est vrai que ce sondage est représentatif de l'évolution aussi, de la transformation qu'on a connue.
Clairement, entre ce qu'on pensait avant, même des choses sur l'ordinateur, sur le smartphone, ou si on se reprojette quelques années en arrière et beaucoup d'années en arrière, même l'ordinateur. Enfin, je veux dire, l'ordinateur, c'était, je me souviens, arrivé dans mon premier job où un de mes collègues avait dit l'ordinateur va révolutionner, je pourrais vous envoyer un message, et on l'a regardé un peu comme ça. humain avec des yeux un peu bizarres, en lui disant, nous, quand on a besoin de te parler, on va te voir, surtout si t'es dans le bureau à côté. Bah, la réalité d'aujourd'hui, c'est que même dans le bureau d'à côté, on envoie un mail.
On envoie un mail ou voilà, d'autres applications. Tiens, le premier Macintosh qui a fêté d'ailleurs ses 38 ans hier.
Je rajouterais aussi que c'est intéressant quand on regarde les générations plus âgées, celles qui ont vécu les Trente Glorieuses, elles citent souvent le congélateur. Et c'est, oui, c'est assez, ouais, frappant, assez haut dans le classement. Ce qui veut dire que le congélateur, ça a changé leur mode de vie. En réalité, ça leur a permis de stocker et donc de se libérer finalement de la tyrannie des courses au quotidien. Et si on met le projecteur sur les plus jeunes, là il y a un objet du futur qui apparaît, c'est la voiture électrique. Elle est encore peu diffusée,
oui,
mais on sent quand même que déjà chez les plus jeunes, il y a cette intuition que c'est plus d'ailleurs à mon avis qu'une intuition, mais que c'est l'objet du futur, c'est ce qui va nous embarquer dans une nouvelle, ouais, civilisation de la mobilité. Mmh.
Et on voit, ça se transforme à toute vitesse. Un vélo électrique, évidemment, trottinette. Qui aurait imaginé que voilà, on se balade avec des trottinettes électriques en plein Paris. Ça change à toute vitesse. Alors, une question d'importance. Les Français, Rémi Guéry, font-ils confiance à leur installation électrique?
Alors ça, c'est bon. À titre personnel, ça m'a beaucoup frappé. Effectivement. Alors déjà, une chose, c'est que aujourd'hui, pour un Français d'aujourd'hui, l'électricité, c'est vital. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans électricité, quoi qu'on fasse, quasiment.
C'est vrai.
Et ils le reconnaissent, ils en sont tout à fait conscients. Donc la période qu'on traverse actuellement les rend un peu fragiles et vulnérables. Ça, c'est ce qu'on voit très bien en creux dans l'étude. Et après, ce qui m'a frappé, moi, c'est la confiance qu'ils ont dans leur électricité, dans leurs installations électriques. C'est incroyable. C'est des chiffres vraiment dignes de République bananière, c'est-à-dire qu'on a des chiffres de plus de 80%. Et dans le détail, quand on essaie de comprendre mais pourquoi ils ont tellement confiance dans leur installation électrique, ils ont confiance dans le fonctionnement, ils ont confiance dans le fait qu'il y a une puissance aujourd'hui qui fait qu'ils peuvent faire marcher de nombreux appareils électriques en même temps. Ils ont vraiment un sentiment de confiance, alors que je ne sais pas si c'est unique à la France, mais en tout cas de cette étude, ça m'a paru assez marquant.
C'est peut-être parce que ça marche très bien, et je parle à Florence parce qu'elle a parcouru le vaste monde sur tous les continents. On n'a pas, alors peut-être de temps en temps dans les dom-toms, oui c'est vrai qu'il y a eu des pannes, mais c'est vrai que par rapport à certains pays où les coupures sont extrêmement fréquentes, où le réseau n'est pas fiable, c'est vrai qu'on a un réseau en or en France.
Alors on n'a pas de coupure, donc c'est vrai que
non, mais on allume, ça marche.
Oui, mais on a eu des coupures, donc pour le coup les baby boomers ont connu des coupures. Là, ils n'en connaissent plus, ils connaissent des micro coupures. Mais c'est vrai que dans les autres pays, il y a encore, alors, moins l'Europe, mais plus ailleurs, il y a encore des coupures. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Rémi, c'est que ils sont confiants dans leur installation électrique. Ils peuvent brancher plein appareil, ils allument la lumière, ça fonctionne, etc. Et donc, ils sont extrêmement confiants. Ils disent, oui, à plus de 80%, on est satisfait de notre installation. On a confiance en notre installation électrique. Or, il y a quelque chose qui est une alerte. Parce que l'alerte, c'est qu'on peut être confiant, on peut dire il n'y a pas de souci,
oui,
mais les faits disent non pas le contraire, mais on a une étude faite par l'Observatoire national de la sécurité électrique, cette fois, la statistique électrique, je ne sais plus comment, le chiffre, la lettre, mais pour autant, c'est 85% des logements de plus de 15 ans présentent une anomalie.
Oui, une anomalie, alors c'est pas forcément grave, mais
pas forcément grave,
corriger.
Mais ça peut l'être aussi. Oui. Alors l'anomalie, ça peut être, on n'a pas d'appareil de coupure générale, ça peut être un fil dénudé, ça peut être l'installation dans la salle de bain qui n'est pas conforme parce que justement, oui, là pour le coup, on risque de se faire mal. Et puis il y a aussi la prise à la terre. Donc on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et comme disaient certains, c'est pas parce que ça fonctionne qu'on a de la lumière que tout est merveilleux derrière.
Rémi.
Oui, ça veut donc dire que, attention, ces chiffres a priori sont une bonne nouvelle, mais ça veut dire que plus dure sera la chute, c'est-à-dire que si dans les années qui viennent, justement, il y a des accidents, ou le mot pénurie, c'est un mot qui est apparu soudainement en 2022.
Voilà.
Et alors que traditionnellement, la pénurie, ça évoque pour nous soit l'Europe de l'Est, les pays communistes, soit pour les plus âgés, la reconstruction, c'est-à-dire les tickets de rationnement des années 50, début 60. Donc voilà, donc c'est vrai que cette confiance peut-être reflète aussi une certaine inconscience, je ne sais pas, en tout cas une relative méconnaissance. Et ce qui veut dire qu'un des enjeux des années qui viennent, c'est aussi de faire monter en expertise les consommateurs.
Alors justement, les années futures, on parle beaucoup de transition énergétique. Les Français et cette fameuse transition énergétique, où en est-on, Raymond Guiret ? Qu'est-ce qu'ils vous répondent ?
Alors, aujourd'hui, il y a plus d'ambiguïté. Tout le monde est conscient qu'on est embarqué dans une crise climatique et plus généralement écologique qui nous oblige à changer nos modes de vie. Donc, tout le monde est d'accord sur l'idée qu'il va falloir aller vers une transition énergétique. Après, là où il y a matière à débat, c'est le rythme et l'ampleur de cette transition. Bon, ça, c'est les années qui viennent qui vont le montrer. Après, dans une autre enquête, on a été frappé du fait que quand on demande aux gens finalement qu'est-ce qui est le plus prioritaire aujourd'hui dans ce vaste mouvement de la transition écologique, la première chose qu'ils mettent en avant, c'est l'isolation thermique des logements. C'est vraiment, il y a cette conscience que en faisant ça, on va pouvoir vraiment réduire l'empreinte carbone, mais je pense aussi on va pouvoir faire des économies, donc les deux sont liés. Et ce qu'on voit très bien dans l'étude pour Promotelec, c'est que notamment les propriétaires, puisque ce sont eux qui sont les premiers concernés, sont tout à fait conscient qu'il faut aller vers ça. Beaucoup ont l'intention de le faire dans un horizon de temps qui est de 5 ans. Après, l'enjeu, ça va être de dégager des moyens. En période d'inflation, évidemment, le pouvoir d'achat se réduit. Donc, il va y avoir un enjeu de dégager des moyens financiers pour le faire. Et puis, l'enjeu des aides également, qui existent, et dont l'étude montre qu'elles ne sont pas toujours connues. C'est un grand paradoxe de notre époque d'hyper-information. On a l'impression que tout est connu, mais en réalité, des gens qui ont droit à des aides et qui pourraient justement réaliser leur intention, il y a aussi un enjeu de communication très fort.
On a beaucoup parlé sobriété, qu'il fallait peut-être diminuer sa consommation, notamment face à un hiver qui pourrait être rigoureux. Alors, il l'a pas été jusqu'à ces derniers jours. Pour autant, les Français, ils s'engagent aussi dans cette démarche de sobriété. Ils le font volontairement. Ils le font pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques.
Ils le font pour les deux, mais très largement pour des raisons économiques. Mais à la limite, peu importe le chemin, au final, c'est la destination qui est importante. Et même, je peux dire que, au vu de cette étude et d'autres études qu'on réalise chez Sociovision, c'est que le meilleur allié de l'écologie aujourd'hui, c'est l'économie. C'est que plus les gens seront amenés à faire des économies, plus ils seront sobres de facto. Alors, évidemment, une sobriété qui dure et qui est subie n'est pas souhaitable non plus. Mais il y a peut-être une leçon positive à retirer de l'année 2022, c'est que ce mot de sobriété qui, comme le mot pénurie, est apparu
nouveau,
en tout cas qui s'est imposé. C'est un peu la réponse positive à la pénurie. La pénurie, ça serait vécu de façon négative, mais la sobriété, c'est une démarche. En tout cas, les Français aujourd'hui, quand on leur propose le mot sobriété, sont plutôt positifs. Ouais. Ils sentent bien que notre modèle de consommation est arrivé à bout de souffle, qu'il a en partie détruit la planète et qu'il faut faire quelque chose. Donc les gens sont d'accord. Après, le chemin à prendre, il est différent selon chacun.
Sobriété, frugalité, c'est vrai que ce sont des mots qui ont pris le devant de la scène. Ça vous étonne ce shift ? Un tiers des propriétaires, effectivement, disait Rémi, envisagent des travaux de rénovation ou d'isolation pour leur logement d'ici 5 ans. Et la moitié pour l'isolation, effectivement.
Je trouve que le chiffre est élevé et ça montre bien aussi ce que, comme disait Rémi, la prise de conscience qu'on a, quel que soit l'objectif, économie, participation à la transition écologique, sobriété, etc. Toujours est-il que ça ne laisse personne insensible. Donc ils ont bien l'intention de faire quelque chose, qu'ils ont bien compris que d'une part ça va réduire leur budget et que deuxièmement, bon, peut-être que lointain encore, que on voit dans les pourcentages que c'est pas si loin que ça, il contribue aussi à l'effort de protection de la planète. Donc après, Rémi disait, toutes les aides ne sont pas connues. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Je crois qu'on est même noyé par ces informations. Peut-être parce que nous, on est du secteur, donc peut-être qu'on les regarde encore plus. Mais c'est vrai qu'il y a des chemins qui sont parfois un peu compliqués, même si on a essayé, globalement, le gouvernement a essayé de simplifier les processus. Et puis après, il y a autre chose, c'est que bon, il y a des aides, mais il y a des restes à payer aussi. Donc là aussi, l'étude le montre. Quel montant souhaiteriez-vous consacrer justement, alors que ce soit l'isolation, que ce soit le changement de chauffage, etc. Alors bien sûr, hors aide, on est autour de 5 000 euros, ce qui est déjà bien, mais Bien sûr, ça dépend de l'ampleur des travaux à réaliser, du chauffage à mettre en place, ouais. Remplacer du fioul par une pompe à chaleur ou
un minimum. Pour résumer, il y a un consensus sur cette sobriété, oui. Sur cette décarbonation, donc motif plus peut-être économique, écologique, quoique ça peut se recouper. On est prêt à faire l'effort à concurrence de 5 000 euros, mais plus ça va être compliqué, parce que évidemment, on regarde aussi ce qu'on va devoir débourser, et puis peut-être encore simplifier les aides, même s'il y a eu un effort. On parle également, Rémi Guéret, avec vous et cette étude Sociovision de la maison du futur. Alors c'est intéressant, puisque là, on est encore en pleine transition. On peut évidemment se projeter et rénover sa maison, mais si voilà, à quoi aspirent les Français? À quoi ressemble cette maison du futur?
Alors, pas tout à fait à l'image qu'on en avait il y a encore quelques années. Enfin, moi, j'ai vécu pendant des décennies, le grand fantasme, c'était la maison high-tech. Je me fais toujours penser à mon oncle, Jacques Tati, dans les années 60, cette maison où tout communique, tout intelligent. Donc, c'était une sorte de préfiguration de ce qu'on appelle aujourd'hui la maison connectée. Et donc, il y a encore quelques années, on avait quand même cette image qu'on allait aller vers des maisons intelligentes, en fait. Et alors, ce qui est très frappant, c'est que c'est pas du tout ce qui fait rêver les Français. Il n'y a pas vraiment de vision dominante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a un modèle qui s'impose dans l'étude, mais on voit bien que dans ce qui s'impose comme les idées importantes, il y a l'idée d'une maison écologique quand même. Et qu'est-ce que les Français ont en tête quand on parle de maison écologique? C'est une maison où on produit tout ou partie de son énergie, justement.
D'accord. Hein,
c'est-à-dire une maison où on n'est pas dépendant, donc il y a une forme, un rêve d'indépendance, de maîtrise, mais il y a aussi un rêve d'écologie qui se lie là. Il y a une deuxième ambition, et notamment chez les baby boomers, c'est une maison où on peut vivre le plus longtemps possible. C'est-à-dire où on ne passe pas par la case EHPAD, si vous voulez, qui est devenue un peu le repoussoir.
On peut rester chez soi le plus longtemps possible.
On veut rester chez soi le plus longtemps possible. Donc, il faut installer la maison d'équipements qui permettent, quand on vieillit, d'y être à son confort. Et puis, une maison qui nous sécurise.
Oui.
Et quand on a testé plutôt les images d'une maison ultra connectée où on peut tout contrôler à distance, etc., là, les scores sont très faibles. On l'avait déjà montré dans une précédente étude pour Promotelec, et on avait expliqué cette espèce de peur. C'est la peur de la maison espionne. C'est-à-dire, à partir du moment où tout est intelligent, c'est vous, où tous les appareils sont connectés, vous avez le sentiment de plus être chez vous. Or, s'il y a bien un lieu où les gens ont envie de se sentir libres, c'est chez eux. Donc, d'où leur réticence, non pas totale, hein, parce qu'il y a de l'intelligence dans les maisons aujourd'hui. Et il y en aura d'ailleurs sans doute plus dans les années qui viennent, mais on voit bien qu'il faudra qu'elle soit connectée à un bénéfice qui ne soit pas nécessairement un bénéfice individuel, mais ça peut être un bénéfice collectif comme l'écologie.
Oui, il y a besoin d'intelligence aussi pour ajuster la consommation électrique, ça, on en a besoin, le fameux grid en particulier.
Exactement. C'est pour ça que plutôt que de parler de smart home, je dirais smart green home, c'est-à-dire une intelligence mise au service de la maison verte.
Idée forte, en tout cas, cette maison du futur, elle est pratiquement en économie positive au niveau de l'énergie. C'est intéressant que les Français, idéalement, voudraient avoir ce type de maison.
Ouais, je crois qu'on a... Tous les signaux qui consistent à dire attention à la planète, consommons bas carbone, vivons le plus longtemps chez soi, dans un confort, on va dire, douillet, sont réunis à travers cette étude et d'autres qu'on a faites auparavant. On voit bien que tous les signaux actuels, je veux dire, Rémi disait, les EHPAD, on a vu des reportages absolument horribles sur les EHPAD et donc on s'est rendu compte, même à 30 ans, qu'on n'avait pas envie de finir en EHPAD et donc du coup de regarder plus loin et donc déjà de penser à la maison dans laquelle on vivra ou l'appartement dans lequel on vivra, mais surtout pas l'EHPAD. Et puis en termes de connectivité, on a appris aussi on a réappris à connaître sa maison lors d'un épisode assez dramatique qui était le Covid en 2020, donc avec le télétravail. Et puis,
on a redécouvert sa maison.
On a redécouvert sa maison. Maintenant, aujourd'hui, je pense que dans certaines catégories où c'est possible de télétravailler, on passe plus de temps chez soi qu'au travail. Donc on la regarde autrement et puis on est très bien, on voit bien ce qu'on veut. La maison espion, c'est pas pour nous. En revanche, on veut quand même un minimum de tech. Et puis de tech qui nous permet de nous faciliter la vie, d'économiser aussi. Donc on parle des radiateurs intelligents, on parle des volets à distance aussi, qu'on peut protéger sa maison, protéger la chaleur de la maison ou du froid, garder le froid à l'été quand il fera chaud. Parce que ça aussi, c'est un autre sujet qui va aussi monter en puissance avec le rafraîchissement de l'air. Et on a bien aujourd'hui, oui, des Français qui sont responsables, qui sont de plus en plus responsables. Et tout l'intérêt, je dirais, de Promotelec aussi, c'est de communiquer sur les bonnes techniques, les bons gestes pour pouvoir avoir ce confort optimal.
Maison Green plutôt que Maison Big Brother, oui. On l'aura compris. Rémi Guéry, dernière question, c'était sur l'ensemble de cette étude. Est-ce que vous avez eu des surprises, ou votre sentiment, est-ce que ça corrobore ce que peut-être des pistes, les intuitions que vous aviez?
Alors sur la maison, j'ai pas été surpris parce qu'on l'avait déjà plus ou moins pressenti, enfin on l'avait même mesuré, donc ça se confirme. Donc c'est vraiment l'idéal de la maison autosuffisante. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'est plutôt sur ce qui marque les gens quand on les confronte à des appareils de toute nature. Finalement, que vous ayez aujourd'hui 18 ans, 30 ans, 60 ans, finalement il y a un consensus sur la base. Moi, ça m'a étonné parce que je me serais attendu à plus d'écart entre les générations, un peu comme si les gens sont conscients de ce qui leur a le plus apporté à la fois. Alors, c'est souvent de l'émancipation en réalité, hein. Le réfrigérateur permet de s'émanciper parce que vous n'êtes plus le garde-manger, la machine à laver c'est plus la lavandière, l'ordinateur c'est plus le compte à la main, et puis le smartphone c'est devenu l'objet de toute une génération emblématique parce qu'il réunit tous les autres objets. Donc c'est à la fois contre-intuitif de se dire que toutes les générations mettent la même chose, mais comme quand on donne les explications, finalement, c'est assez logique.
Enfin, machine à laver ou smartphone, aujourd'hui, pas évident. Pas évident. Bon, on va en terminer là-dessus, cette note un peu humoristique. Merci en tout cas à Florence Lelettre, directrice générale de Promotelec. Merci. Rémi Dugoury, sociologue, auteur, directeur général de Sociovision, qui fait partie du groupe IFOP, pour cette étude qu'on peut retrouver sur le site qui est
sur le site de Promotelec.
Voilà, les différentes études des Français et la maison sur les 60 des dernières années, c'est Métamorphose de l'électricité. Un grand merci de nous avoir suivis.
Merci.
On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Confort dans l'Habitat.
Le Confort dans l'Habitat, retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Immo et sur le site promotelec.com.